Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de RTL avec Olivier Mazerolle, bonsoir.
Bonsoir.
Ce sera sans doute moins sympa que le Club des 5, pas vraiment ambiance bibliothèque rose, en tout cas ce sera une grande première. Demain soir, à un mois du premier tour, les 5 candidats les mieux placés dans les sondages vont croiser le fer. Débat organisé par TF1 et LCI qui sera retransmis sur RTL à partir de 21h. Décor, temps de parole, thèmes abordés, on va tout vous dire sur cet événement très attendu. Quel est celui ou celle des 5 qui a le plus à perdre demain? Ce sera notre débat après 18h30. Dans ce MacPol également, le replay du grand jury d'Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon. La campagne en famille avec les La Trèche, séduit précisément par Benoît Hamon, mais qui pense déjà au second tour. On ira à la rencontre d'un élu Front National qui a quitté le parti. Il serait plusieurs centaines dans ce cas. Et puis maintenant qu'on connaît les 11 candidats sur la ligne de départ, on va vous en dire plus sur les soutiens dont ils ont bénéficié. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h. Le nom du futur président de la République sera connu dans 49 jours.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Philippe Robuchon.
Olivier Mazerolle, le match du week-end, c'était un peu Mélenchon-Hamon. Hein, Hamon-Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon dit avoir réuni 130 000 insoumis hier dans les rues de Paris. Cet après-midi, Benoît Hamon a rempli Bercy, 15 000 personnes, plus plusieurs milliers à l'extérieur. Au-delà des chiffres et au-delà de ces deux candidats qui n'arrivent pas à s'entendre, un constat, on voit mal, même s'ils ont été très bons tous les deux, hier et aujourd'hui, ce qui pourrait empêcher la gauche d'exploser dans les semaines et les mois qui viennent.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, si je peux me permettre. D'abord, effectivement, ils ont été très bons tous les deux, chacun dans son couloir. Mélenchon, hier, avec le peuple, il a ressuscité le peuple de gauche, comme ça, qui était là, qui chantait, qui applaudissait, qui rêvait aussi aux grandes luttes. Hein. Et Benoît Hamon a trouvé son public aussi, à Bercy, beaucoup de jeunes. Et il a su trouver les mots qui galvanisent cette espérance de la jeunesse. Et aussi, il faut bien le dire, il a su tendre la main à cette partie, à cette portion, ou cette fraction du Parti Socialiste avec laquelle il est en rupture de banc. Alors, il a fait applaudir François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, pas Manuel Valls, auquel même il a réservé quelques pics sans le citer. Bref, voilà. Maintenant, est-ce que tous les deux sont irréconciliables? Ils le sont aujourd'hui et ils le seront certainement jusqu'à l'élection. Après l'élection, pas évident qu'ils ne se retrouvent pas, ces électeurs-là. Mais tout va dépendre de l'évolution de l'électorat de Benoît Hamon. Est-ce qu'il reste complètement à gauche, auquel cas il n'a aucune chance à la présidentielle? Il est même pratiquement rattrapé par Jean-Luc Mélenchon maintenant dans les sondages. Ou bien est-ce que les quelques perches qu'il a tendues à la fraction modérée du PS aujourd'hui vont être entendues? Rien ne le prouve. Il est en butte à l'hostilité d'une bonne partie des caciques du Parti Socialiste. Donc, rien ne le prouve. Mais aujourd'hui, disons qu'il a fait le boulot. Il a joué à domicile. Il a été bon. Voilà. Après, à l'extérieur, ça sera peut-être plus compliqué.
On verra. Vous venez d'en parler, Olivier, la tribune de Manuel Valls, hein, ce matin dans le journal du dimanche. Il se défendait d'être un traître, hein, pour ne pas avoir soutenu Benoît Hamon. Cette tribune a été vécue comme un coup de poignard, hein, par une partie de la gauche, notamment le camp de Benoît Hamon. Écoutez sa porte-parole, Aurélie Filippetti. Elle était à la mi-journée l'invitée du grand jury sur RTL. Manuel Valls accuse le programme d'Hamon de faire monter le Front National. Eh bien, voilà ce qu'elle répond.
Moi, je pense que ce qui fait le lit du Front National, c'est quand on ne respecte pas des engagements qui ont été pris dans une campagne présidentielle, devant des électeurs, par exemple, et quand on ne respecte pas des engagements qu'on a pris aussi au moment de se lancer dans une campagne pour des primaires.
Donc là, vous parlez de Manuel Valls qui ne veut pas donner sa signature à Benoît Hamon.
Ah oui, mais ça discrédite la politique quand même. C'est ça qui fait le jeu du Front National, c'est quand la politique est discréditée.
Cécile Duflot dit que c'est du sabotage.
Mais en tout cas, c'est une tentative, c'est une peau de banane, comme on dit. Mais je ne pense pas que ça suffise parce que à entraver la campagne de Benoît Hamon. Parce que la réalité, c'est quand même que le suffrage, il s'est exprimé massivement pour Benoît Hamon dans la primaire du Parti Socialiste. La démocratie, c'est le respect du 1,5 million d'électeurs qui se sont déplacés pour la primaire de la gauche dans un contexte pourtant difficile et qui ont adressé un message. Mais on ne peut plus clair en disant « on veut » que soit défendu dans cette élection présidentielle un projet de gauche. Voilà. C'est pas un projet de gauche, c'est un projet de gauche. Benoît Hamon, c'est le seul candidat réellement social-démocrate de cette élection. Le Parti socialiste, c'est le parti de la social-démocratie. Et c'est quand le Parti socialiste a été résolument fidèle à ses valeurs et attaché à la gauche qu'il a pu l'emporter.
Voilà, Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon, elle était à la mi-journée au grand jury. Pour la campagne en famille maintenant, cette semaine, eh bien RTL est retournée voir les Latrèche à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Famille qui avait voté François Hollande en 2012, mais qui nous avait dit il y a quelques semaines qu'elle était déçue par ce quinquennat et qu'elle comptait s'abstenir. Depuis, apparemment, les choses ont un peu changé. Il semble que les Latrèche soient séduits par Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon. Comment voit-il évoluer la campagne en ce moment et qu'ont-ils pensé précisément de l'attitude de Manuel Valls ? C'est un reportage signé Maud de Carpentier, Caroline N.
La campagne en famille.
Et si on en parlait ?
Nous sommes de retour chez les Latrèche.
Allez-y, rentrez.
Merci. C'est la mère de famille, Jamila, qui nous ouvre la porte.
Vous voulez un verre de thé ?
La dernière fois, c'est l'affaire Théo qui était au cœur du débat. Cette semaine, ils reviennent sur les difficultés de leur candidat, Benoît Hamon, à rassembler.
Quant à Benoît Hamon, le doute s'installe dans son propre camp sur fond de rumeurs.
Face à ses soutiens, Manuel Valls a défendu sa ligne. Ni Hamon, ni Macron pour l'instant.
En démocratie, le respect de la parole donnée, c'est important.
Je savais qu'il n'allait pas le soutenir, Manuel Valls.
Jamila, 54 ans, assistante maternelle.
Je savais très bien qu'il n'allait pas soutenir Benoît Hamon.
Non. C'est pas Brutus qui a poignardé César, non ?
Alouche, son mari.
Il a fait volte-face.
Il a décliné tout rapprochement, que ce soit Benoît Hamon ou Macron. Mais bon, on sait bien que si on désigne pas l'un, ça va vers l'autre.
Non, mais je crois à personne, moi, en fait. C'est que des menteurs, tous.
Mehdi, 30 ans, leur fils.
J'ai abandonné, parce que c'est tous des... C'est tous des menteurs pour moi.
Il avait bien dit ouvertement, je soutiendrai Benoît Hamon. C'est hypocrite, c'est parce qu'il a perdu qu'il a dit ça. C'est dégueulasse.
Pour moi, Benoît Hamon, c'est le vrai socialiste. Comme à l'époque de Mitterrand, comme à l'époque de Delors et tout ça.
Ses idées me plaisent. L'écologie...
Le revenu universel, c'est très très bien ça.
Ça aide les jeunes. Moi, je vois ma fille, Soumeya, pas de revenu, rien du tout. Elle a 19 ans, elle est obligée de travailler pendant les vacances.
Je trouve ça bien, je trouve que c'est une opportunité pour les jeunes. Au niveau du travail, c'est très difficile. Dans mon domaine, c'est très difficile. Je suis indemnisé à la journée, mais c'est à hauteur, allez, de 35 euros.
Je comprends, parce que moi, respectivement à son âge, à 30 ans, moi, j'ai mis du boulot partout, je bossais. Un travail, c'est revalorisant. Moi, maintenant, quand je vois des gens comme moi qui travaillent, qui se mettent derrière Macron, je dis que ça va taper, Macron.
Une enquête préliminaire vient d'être ouverte sur l'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas. Le candidat d'En Marche était à l'époque ministre de l'économie.
Soirée prestigieuse et très chère pour le ministère, plus de 380 000 euros.
En aucun cas, la probité n'est en cause.
Il était ministre de l'économie. Il a fait des bonnes soirées à Las Vegas. Waouh ! Au niveau de cette campagne, c'est triste. C'est triste parce que mais c'est pas possible. Ils vont représenter la France.
Monsieur Macron, pour moi, n'est pas représentatif du tout. Enfin, de ma classe. Je suis ni patron d'entreprise, ni affilié à la bourse. Macron, il représente le MEDEF.
Moi, il y a un truc que je retiendrai toujours d'Emmanuel Macron. Quand en live, on dénigre une personne et une classe ouvrière où il a été réducteur, que ça soit illettré, que ça soit par rapport à son costume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un respect à avoir.
C'est dur. Macron, je vous assure, voilà, si je vote, c'est vraiment pour écarter Marine Le Pen. Mais
si Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont au deuxième tour, je voterai blanc.
Alors, si jamais on tombe dans ce scénario-là, je n'irai pas voter. Je n'ai pas peur du tout. De Marine Le Pen, non, je n'ai pas peur. Mais vous croyez que d'un tour de main, elle va pouvoir sortir de l'Europe, virer tous les immigrés, tout ça. Elle va être comme Trump à un moment donné. Elle va s'apercevoir qu'elle n'est pas toute seule au monde.
L'Assemblée nationale sera là.
Elle a des idées. Après, de toute façon, il faut qu'elle les fasse adopter, quoi. Pour moi, l'Assemblée, ça va être le plus important.
Sceptiques sur les chances de Benoît Hamon d'atteindre le second tour, les Latrèche comptent sur les élections législatives pour équilibrer le rapport de force.
La campagne en famille.
Et si on en parlait ?
Reportage Maud de Carpentier, Caroline N. Olivier, un petit commentaire ?
Oui, juste une précision. Manuel Valls y avait dit « Je voterai pour le vainqueur, surtout si c'est moi ». Alors, certains avaient pris ça pour une boutade, mais en réalité, ça cachait bien quelque chose d'important. C'est que la primaire a été un faux-né. Ils n'ont pas débattu de leur divergence de vue, de la divergence de la ligne idéologique pour le Parti Socialiste. Et aujourd'hui, cette absence de règlement, finalement, éclate au grand jour.
18h28, Olivier. On va marquer une petite pause. Dans un instant, la suite du MacPoll sur RTL. On va tout vous dire dans un instant sur le débat de demain soir sur TF1.
18h. 18h-19h30, RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Et à 18h30, les titres de l'actualité, Olivia Leray.
Benoît Hamon passe à l'offensive. Son meeting à Bercy a réuni 25 000 personnes cet après-midi, selon les organisateurs. Le candidat de la gauche a dénoncé un parti de l'argent qui a, selon lui, trop de candidats dans cette élection, visant, sans les nommer, Emmanuel Macron, François Fillon ou encore Marine Le Pen. Orly, le jour d'après, au lendemain de l'attaque d'une patrouille de l'opération Sentinelle à l'aéroport, l'enquête se concentre sur le profil de l'assaillant abattu, un braqueur multirécidiviste radicalisé en prison en 2011. En Allemagne, Martin Schulz, élu à l'unanimité à la tête du Parti social-démocrate, 100% des voix. L'ancien président du Parlement européen est le principal challenger d'Angela Merkel pour les législatives de septembre. Direction le stade Gaston Gérard, Dijon reçoit Saint-Etienne. Deuxième mi-temps, toujours pas de but, Arnaud Grange.
Exactement, 74e minute de jeu, score toujours vierge, 0-0 ici au stade Gaston Gérard, où ni Dijon ni Saint-Etienne n'arrivent à s'imposer malgré plusieurs grosses occasions de chaque côté, malgré une possession de balle assez équilibrée. Pourtant, les deux équipes ont besoin de points.
Merci Arnaud Grange. Notez la solide victoire du leader Monaco à Caen, 3-0 cet après-midi. L'affiche du soir, PSG-Lyon, c'est à 21h. En rugby, la fusion entre le Racing 92 et le Stade Français, c'est déjà du passé. Les présidents des deux clubs ont fait marche arrière cet après-midi. Et puis sur les pelouses du top 14, Grenoble reçoit Toulon en ce moment. Avantage aux Toulonnais, 23-16. 18h32 sur RTL dans un instant, la suite du MacPol.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Philippe Robuchon.
Le Conseil d'État ayant donné raison à TF1 et pas à Nicolas Dupont-Aignan, ils ne seront donc que 5 demain soir à débattre à 34 jours du premier tour. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Débat qui devrait durer pas loin de 3 heures, que retransmettra RTL à partir de 21h et qui aura lieu comme lors des primaires en direct d'un studio de la Plaine Saint-Denis au nord de Paris. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
Vous avez pu assister hier après-midi aux répétitions.
Et je vous propose de partir visiter ce studio numéro 217, c'est tout simplement le plus grand d'Europe.
Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Anne.
Alors comme vous l'entendez, l'équipe était encore hier en plein calage.
Maintenant les candidats, mettez-vous en place d'entrée s'il vous plaît.
Bien sûr, ce ne sont pas les vrais candidats, mais des doublures qui ont été engagées en fonction de leur taille ou de leur couleur de cheveux. Tout ça doit être parfaitement calé.
Alors par rapport au débat des primaires, qu'est-ce qui change ?
Eh bien la taille du plateau déjà, c'est quasiment deux fois plus grand. Nouveau décor aussi, plus sobre, gris et beige. Mais la grande nouveauté cette fois, c'est que les candidats seront installés en arc de cercle et non plus côte à côte. Un dispositif qui change pas mal la donne, imaginée par le réalisateur Tristan Carnet.
C'est la première fois, je pense, qu'ils sont un peu dans l'obligation de se voir, de se regarder. Ils peuvent difficilement passer les 2h30 à s'éviter du regard. Ou alors ça va se voir quoi.
Et justement c'est ça, hein, l'idée qu'ils se regardent, qu'ils s'interpellent. En fait, il faut imaginer une forme d'arène avec 5 candidats au milieu et plus de 400 personnes tout autour installées dans les gradins, spectateurs et spectatrices de ces joutes verbales.
Alors il y aura, je crois, 3 grands thèmes hein, développés pendant 50 minutes chacun.
Oui, 3 grandes parties. D'abord les questions de société, éducation, sécurité, laïcité, les sujets économiques ensuite et puis dernière partie, la place de la France en Europe et dans le monde. À chaque fois qu'un candidat prendra la parole, il aura maximum 2 minutes. Qui commence, qui termine ? Tout ça a été tiré au sort et c'est bien sûr l'un des enjeux de ce débat pour les deux journalistes qui l'animent, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot, l'impartialité à la seconde près.
On n'a vraiment pas le droit d'installer la moindre ambiguïté.
Mais on en discutait avec Anne-Claire tout à l'heure et on se disait qu'à partir du moment où il y a un juge de paix qui est le chronomètre et un deuxième qui est le hasard, c'est totalement transparent et c'est ce qui, moi, me passionne. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle alchimie résultera de ce débat. Et c'est très bien ainsi.
Bon, espérons pour TF1 que l'alchimie va opérer, comme on dit. Un mot sur l'audience espérée ?
Aucun objectif fixé, même si en coulisses on espère bien dépasser la barre des 10 millions de téléspectateurs. Ce serait un joli coup, hein, une audience que seul le concert des Enfoirés et les matchs de foot sont capables de générer.
En effet. Merci Dominique, vous restez avec nous.
RTL dimanche soir, le MacPol.
Philippe Robuchon.
On va parler des enjeux de ce débat maintenant avec vous, Olivier, mais aussi avec Alexis Brézet du Figaro et Christophe Jacques-Bizine de LCI. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, selon vous, lequel des 5 a le plus à perdre demain soir ? Ouais. Alexis ?
C'est toujours le favori qui a le plus à perdre, par définition. On est tenté de dire que c'est Macron. Il peut y avoir un scénario où vu le nombre de gens qui ont intérêt à taper sur Macron, on est le tout sauf
ce qui pourrait
tout sauf Macron,
pour le coup, lui profiter.
Qui peut aussi lui profiter. Après, c'est pas sûr que ça se passe comme ça, mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, ben, Fillon il a intérêt à faire revenir ses électeurs qui sont passés chez Macron, Hamon a intérêt à faire revenir ses électeurs qui sont passés chez Macron, donc en tout cas, ces deux-là ont forcément intérêt à taper sur Macron.
Voilà, c'est intéressant ce que dit effectivement Alexis, parce que ce midi, nous étions aussi à RTL avec le grand jury, et dans l'entourage d'Aurélie Filippetti et donc de Benoît Hamon, on nous disait attention à ne pas trop taper quand même sur Macron, parce que le tout sauf Macron pourrait lui profiter. Donc, ça va être intéressant de voir que je pense que demain, il n'y a pas seulement des stratégies de fond, il y a aussi des stratégies de bataille, en fait. C'est un débat présidentiel, c'est comme des armées qui se mettent en marche et qui ont des stratégies, des tactiques d'attaque différentes.
Oui, il ne faut pas oublier non plus qu'Emmanuel Macron, il n'est pas manchot, même s'il n'a pas l'habitude de ce genre de débat, il a l'esprit de répartie.
Ce sera son premier, il n'en a jamais fait.
Voilà, parce que les autres, il faut se rappeler que d'abord, il y a deux présidentielles, il y a l'habitude des débats avec les primaires pour Fillon et Hamon. Et il y avait eu un débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mélenchon-Marine Le Pen avant
ils
le
se
premier
connaissent.
Tour.
Donc voilà, il y a les vieux routiers. Mais en même temps, lui, Hamon, Macron, il peut être cinglant dans ses réponses et il connaît bien ses dossiers. C'est quand même pas quelqu'un qui arrive complètement démuni dans une bagarre de titans.
Mais il faut quand même qu'il fasse la démonstration, qu'il ne va pas se faire manger tout cru par les cas.
Il y a deux écueils.
Mais surtout, si jamais... ça se passe mieux pour lui que certains ne peuvent le redouter, alors il sera vraiment sur une très bonne trajectoire parce qu'il aura passé l'épreuve.
Oui. Il a deux écueils. Le premier, effectivement, c'est s'il se fait taper dessus de paraître trop fragile, mais c'est pas du tout sûr. L'autre écueil, c'est au contraire, c'est de paraître trop sûr de lui. Trop supérieur, trop, de toute façon, allez maintenant, allez jouer. Et ça, c'est pas bon non plus.
Marine Le Pen, qui est à égalité hein, dans le dernier sondage LCI Le Figaro avec Emmanuel Macron au premier tour des intentions de vote, elle dit qu'elle ne va avoir qu'un seul adversaire demain soir, c'est lui. Elle dit qu'elle veut même pas s'intéresser aux autres.
C'est-à-dire que ce rapprochement, quand même, il faut se souvenir d'où on vient. Normalement, elle a été donnée très largement en tête du premier tour jusqu'à il y a encore même à peine un mois. C'est vrai que dans cette présidentielle, toutes les semaines, ça change. Mais enfin, là, on a effectivement, pour l'instant, un Macron-Le Pen au coude à coude. Pourquoi pas un Macron en tête, ce qui pour elle serait une grave défaite politique. C'est-à-dire qu'elle joue bien sûr la présidentielle, mais si elle était à mon avis derrière Macron au premier tour, elle joue sa survie au sein de son parti, avec, on le sait très bien, une Marion Maréchal Le Pen qui a beaucoup de qualités pour elle et qui pourrait profiter d'un retournement de fortune de Marine Le Pen pour peut-être prendre le pouvoir.
Dans l'immédiat, les circonstances, malheureusement d'ailleurs, les circonstances malheureuses en tout cas, bénéficient à Marine Le Pen parce que, évidemment, la sécurité, après ce qui s'est passé à Orly, va avoir une importance grande dans ce débat, et sur ce plan-là, elle va cogner.
Oui, mais le risque qu'elle soit deuxième n'est plus.
Je suis d'accord. L'autre élément important, je pense, sincèrement, dans ce débat, c'est François Fillon.
Bien sûr,
parce que
lui,
pour
là,
lui, c'est
très
la dernière chance.
Bien sûr.
C'est la dernière chance. Ils doivent essayer d'effacer les dernières semaines calamiteuses qu'il vient de connaître. Donc, il est plutôt bon dans les débats. Il avait bien réussi dans la primaire. Est-ce que ça va être suffisant? C'est pour lui capital.
Ouais. Est-ce que les autres vont aller le chercher sur ses affaires? C'est pas sûr. Ça peut être aussi dangereux et contre-productif de le faire.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de bruit de casserole dans ce débat ou pas?
Moi, je pense quand même qu'il y en aura forcément plus qu'aux primaires. Parce qu'aux primaires, c'est quand même. On est habitué au débat des primaires. Mais c'est quand même la même famille, le débat des primaires. C'est pas du tout la même ambiance.
Aux primaires, il faut se réconcilier après.
Sur la préparation du débat de la présidentielle, on sent une tension extrême entre les états-majors. Et on voit même que chaque thématique, la manière dont on pose les questions est un enjeu pour eux. Donc je pense que ça peut beaucoup plus facilement déraper.
En même temps, si les autres protagonistes cognent beaucoup sur Fillon en raison des affaires, ça peut aussi lui bénéficier. Parce qu'à partir de ce moment-là, il apparaîtra comme une espèce de martyr d'une coalition qui irait de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'ils vont l'attaquer sur ce terrain-là. Je pense qu'on est d'accord sur un point, c'est que ça va jouer un rôle considérable.
Bien sûr.
Mais c'est la première fois dans toute l'histoire de la
série,
qu'il y a un débat de premier tour. Donc
c'est vrai que la tectonique des plaques des candidats va bouger.
Et puis la
soir.
Disposition des lieux dont on parlait.
Et puis la présenté deux éléments
qui nous a été présenté tout à l'heure fait que ils vont être les uns en face des autres, donc ils vont se voir. Donc la réaction, elle peut être spontanée.
Ouais, c'est un peu fait pour ça.
C'est le moteur. Il faut voir. Et ça, c'est un des enseignements du sondage qu'on publie avec Elsie Sofres. Un des enseignements, c'est que l'électorat n'est pas encore fixé. Il y a quand même 30-35% des gens qui ne sont pas sûrs d'aller voter. Mmh. Et à l'intérieur des gens qui sont sûrs d'aller voter, la certitude de choix pour les différents candidats progresse, mais enfin reste encore, pour certains, fragile. Fillon et Le Pen, maintenant, sont arrivés à un niveau de certitude de choix de 73-75%. Ouais. Mais ensuite, Macron, Hamon, Mélenchon, on est plutôt autour de 50%.
Macron, un électeur sur deux n'est pas sûr de son choix.
Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous changer, mais ça veut dire qu'il y a encore une mobilité potentielle dans l'électorat et que donc les événements extérieurs comme ce débat peuvent avoir une influence.
Ça veut dire en tout cas qu'ils ne savent pas encore très bien pourquoi ils sont pour Macron. Donc c'est à lui de fournir la réponse demain soir.
D'où l'enjeu extrêmement important de ce débat demain soir sur TF1 LCI et qui sera, je le rappelle, retransmis par RTL à partir de 21h. Merci Alexis Brézet, merci Christophe Jacques.
Merci.
Dans un instant sur RTL, reportage sur ces élus qui ont quitté le Front National. Ils seraient plusieurs centaines depuis les dernières municipales. A tout de suite dans le MacPol.
RTL dimanche soir,
le MacPol avec Philippe Robuchon.
Depuis les élections municipales de 2014, près d'un tiers des élus du Front National a jeté l'éponge, 28% exactement. Parmi eux, la moitié a quitté le parti, purement et simplement. Les autres ont simplement abandonné leur mandat. Lorsqu'on les interroge sur cette tendance, les dirigeants du FN minimisent. Ils répondent que le nombre de nouveaux arrivants a largement compensé les départs. Il n'empêche, même si parfois ces renoncements ont pu être liés à des questions personnelles, beaucoup d'élus FN disent avoir quitté le navire, à cause du clientélisme, des guerres internes et d'un certain mépris de la base. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir.
Vous avez rencontré l'un de ces élus à Cogolin, dans le Var.
Oui, il s'appelle Pascal Cordet, acquis depuis son adolescence aux idées du Front National, version Jean-Marie Le Pen d'abord, version Marine Le Pen ensuite. Le premier l'a façonné intellectuellement, la seconde a rendu possible son élection. Nous sommes en 2014, 11 communes de France passent sous la bannière FN. Pascal Cordet est élu, un rêve pour cet artisan qui n'avait jamais fait de politique.
Ils avaient l'air d'avoir tête haute, main propre, d'avoir vraiment une autre façon de faire de la politique. Ça avait l'air très honnête, très carré. Depuis que je suis jeune, j'attendais déjà d'avoir 18 ans pour voter Front National. Je suis vraiment écœuré.
Il y a un peu plus d'un an, Pascal Cordet est démis de ses fonctions d'adjoint au sport pour ne pas s'être plié aux décisions du maire. Il dénonce aujourd'hui le mode de fonctionnement de la municipalité et du parti, clientélisme, opacité et folie dépensière.
C'est pas que Cogolin. Toutes les villes Front National, ça va pas quoi. Le Luc, il y a des démissions partout. On entend, moi je suis contacté régulièrement par les anciens colistiers Front National qui ont démissionné aussi. Quand on en discute, c'est tous les mêmes histoires. C'est pas démocratique du tout. C'est un chef, un roi, et il fait tout ce qu'on le Front National a toujours combattu. D'abord, c'est les amis, les copains, les emplois, et on fait embaucher Pierre, Paul, Jacques parce qu'on le connaît. C'est d'abord les copains. Un parti que j'ai défendu toute ma vie. Et quand je parle aux gens, mais qu'est-ce que vous parlez? Ils n'ont jamais été élus. Essayez au moins, peut-être c'est l'adopter. Vous les critiquez, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Ah bah le peu de pouvoir qu'ils ont. Maintenant que je suis là, je vois, c'est pas terrible quoi.
Ce maire s'appelle Marc-Étienne Lansade. Il rejette toutes les accusations, jugeant ces élus dont Pascal Cordet infréquentables, même s'il ne veut pas entrer dans les détails.
Quand vous considérez en votre âme et conscience que les gens qui sont autour de vous, vous les découvrez et que ce qu'ils représentent et le profil qu'ils ont ne vous convient pas du tout et que vous ne voulez pas voir votre nom associé à ce genre de comportement, eh bien vous prenez les décisions qui s'imposent à vous.
Mais les pratiques de Marc-Étienne Lansade divisent Cogolin, les pros se radicalisent, les anti s'organisent. Francis José Maria par exemple, opposant politique à la mairie, il a monté un collectif citoyen pour lutter contre les méthodes du FN.
Alors il faut savoir que les décisions sont prises par deux personnes, le maire et un conseiller en urbanisme qui auparavant avait exercé ses talents à Levallois-Perret en conseillant M. Balkany. Et donc on est dans des systèmes qui montrent bien qu'on vend les biens publics ou on les cède et de préférence à des amis.
En France, de Ouattrelot dans le Nord à Cogolin en PACA, plus de 400 élus locaux ont démissionné. Est-ce révélateur des méthodes du FN? Un cadre préfère relativiser. Simple crise de croissance d'un parti qui a pris de l'ampleur.
Une enquête signée Julien Fautra pour RTL. Merci. On va parler des parrainages maintenant, puisque vous savez que depuis hier matin, on a la liste complète des candidats à la présidentielle. Ils sont donc 11, un de plus qu'il y a 5 ans. Les trois derniers validés par le Conseil constitutionnel sont Jean Lassalle, il a 708 parrainages validés, Philippe Poutou 573 et Jacques Cheminade 528. On note au passage que le recordman absolu du nombre de parrainages, c'est François Fillon à lui tout seul. Il en a
3635, ça fait quand même un parrainage sur 4. Dominique Tenza, vous êtes resté avec nous. Chose intéressante, vous avez pu recueillir des infos non pas sur les candidats, mais sur leurs parrains, sur leur profil.
Oui, alors même si c'est assez compliqué d'établir un profil type sur les 14 296 parrains, la plupart, sachez-le, sont des maires, les trois quarts même, souvent des maires de petites communes, moins de 1000 habitants, ô combien précieux pour aider ceux qu'on appelle les petits candidats. À eux seuls, les petits maires, entre guillemets, constituent 80% par exemple des parrainages de Nathalie Arthaud, de Philippe Poutou et de Jacques Cheminade, alors qu'à l'inverse, les gros candidats Fillon, Hamon, Macron font davantage appel, eux, aux conseillers et aux parlementaires. Marine Le Pen compte pour sa part les parrains les plus jeunes, 53 ans de moyenne d'âge, contre 63 les plus vieux pour Nicolas Dupont-Aignan.
Alors très intéressant, vous avez regardé aussi l'étiquette des parrains.
Oui, ce qui permet de se rendre compte que les élus socialistes ont en grande majorité parrainé Benoît Hamon, les républicains François Fillon et les frontistes Marine Le Pen. Jusqu'ici, vous me direz,
classique.
C'est pas vraiment une surprise. Non, ce qui est intéressant, c'est d'observer le cas Macron, qui se revendique, vous le savez, ni de droite ni de gauche. Or, quand on regarde la couleur politique de ses parrains, on se rend compte que la moitié sont bien de gauche, 16% seulement de droite.
Alors, en regardant le détail des parrainages, vous avez trouvé des petites choses assez amusantes.
Oui, on a par exemple trouvé deux maires qui avaient choisi de s'auto-parrainer. Un en Corse, l'autre dans les Landes. Un autre a choisi de parrainer un ami pour plaisanter, a-t-il expliqué. Et puis, il y a aussi des petits détails plus surprenants. On pensait que les Le Pen étaient fâchés à mort. Eh bien, Jean-Marie Le Pen aura finalement parrainé sa fille.
Ah,
et
oui.
Puis, notons enfin le cas Alain Juppé, qui aura au final récolté plus de 300 parrainages. Figurez-vous qu'avant-hier encore, les formulaires continuaient d'arriver au Conseil constitutionnel. Il faut croire que certains, jusqu'au bout, ont pensé qu'il pourrait être un plan B.
Ou alors ils n'avaient pas du tout écouté les infos. Peut-être, on ne sait pas. Merci Dominique Tenza. C'est intéressant, les étiquettes politiques des parrains, Olivier.
Mais bien sûr, mais vous savez, en ce qui concerne Emmanuel Macron, quand on voit son entourage, il est essentiellement venu de la gauche. À part François Bayrou, il a bien du mal à capter l'appui de personnalités politiques connues de droite. Donc voilà, ça ne fait que refléter une réalité et c'est bien son problème, c'est bien pour ça qu'il fuit comme la peste les ralliements possibles de députés socialistes. Il n'en veut pas, il veut surtout pas être catalogué comme étant un homme exclusivement de gauche et surtout pas un PS bis.
Le service politique de RTL, décidément, est en force ce soir dans le Magpol. On accueille Benjamin Sportouche et c'est confidentiel. Bonsoir.
Bonsoir Philippe.
On commence par une lettre de François Fillon qui a pour le moins surpris les services du ministère de la Santé.
Oui, le ministère a reçu fin janvier une lettre estampillée. François Fillon, le candidat intervient en faveur d'un officiel gabonais, une connaissance de l'ancien Premier ministre qui souffre d'un cancer. Sauf que cet ancien camarade de faculté de François Fillon n'a pas les moyens de s'acquitter des 25 000 euros nécessaires à une radiothérapie en France. Dans sa missive à Marisol Touraine, François Fillon semble donc plaider la cause de cette personnalité qui réside au Gabon pour une prise en charge de ses frais par l'État français. Une intervention très étonnante, relève-t-on au ministère de la Santé, quand on sait que François Fillon plaide pour la fin de l'AME, l'aide médicale d'État, pour les clandestins présent sur le territoire français.
Alors toujours à droite, Nicolas Sarkozy n'a pas définitivement enterré ses ambitions politiques ?
Alors son entourage vous jurera le contraire, qu'il est complètement retiré de la vie politique, que tout ça est derrière lui. Mais on l'a bien vu, au plus fort du Penelope Gate, l'ancien président n'a pas complètement raccroché. Pour l'un de ses anciens conseillers qui lui a beaucoup parlé ces dernières semaines, pas de doute, si François Fillon perd, eh bien Nicolas Sarkozy pourrait revenir, l'ancien chef de l'État qui pense qu'une victoire de Marine Le Pen ou même d'Emmanuel Macron, ce serait le chaos assuré. Et alors, a-t-il confié, il faudra prendre ses responsabilités. Le sous-entendu est clair, il s'imagine un sauveur de sa famille politique, mais aussi d'un pays fracturé.
Enfin, dans les rangs d'Emmanuel Macron, le général Soublet n'est plus le bienvenu.
Oui, le gradé était l'invité de RTL jeudi. Il a rejoint le candidat d'En Marche, mais il n'y est déjà plus en odeur de sainteté. Oui, d'abord parce qu'il s'est autoproclamé candidat aux législatives dans les Hauts-de-Seine. Ça n'a pas plu aux équipes implantées localement. Et puis aussi et surtout parce que Jean-Yves Le Drian n'a pas apprécié les critiques très dures du général sur l'armée. Et autant dire que Macron n'a pas l'intention de fâcher le ministre de la Défense.
Merci Benjamin. Tiens, à propos de Jean-Yves Le Drian, vous avez annoncé la semaine dernière qu'il devait venir soutenir Emmanuel Macron hier matin lors de la présentation de son projet aux armées. Finalement, il n'est pas venu et pour cause, il a dû se rendre à Orly après l'attaque contre les soldats de l'opération Sentinelle.
Non, de toute façon, il ne serait pas venu.
Alors, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est une
non,
raison
Non, parce que François Hollande lui a demandé de ne pas le faire maintenant. Mais ce qui est important, c'est que quand Emmanuel Macron a prononcé son discours, il aurait pu laisser la place à Jean-Yves Le Drian, parce qu'il a dit quasiment la même chose, mot pour mot, sauf sur l'action de l'opération Sentinelle, où là, Emmanuel Macron pense qu'il faut répartir davantage les tâches avec la police que plutôt avec l'armée. Voilà.
Très
mais pour tout le reste, les sous-marins, le deuxième porte-avions, la défense nucléaire, etc., c'est du Jean-Yves Le Drian...
Il est décidément très courtisé, puisqu'on a entendu dans le journal, Benoît Hamon l'a fait applaudir Jean-Yves Le Drian cet après-midi.
Oui, mais bien sûr, écoutez, c'est une façon de rendre hommage au quinquennat.
Alors, il est 18h56, on va faire l'agenda politique de cette semaine. Demain, lundi 20 mars, l'événement, on en parlait tout à l'heure, c'est ce débat à 5 hein, sur TF1 et LCI. Juste avant, figurez-vous que Nicolas Dupont-Aignan, encore lui, malgré la décision du Conseil d'État, a prévu d'aller manifester devant TF1, parce qu'hier soir, on a vu qu'il avait quitté le plateau avec fracas. Eh bien, il retourne à TF1 demain soir pour protester contre son absence au débat.
Alors, vous savez quoi, Jean-Luc Mélenchon, hein, il est capable de prendre Nicolas Dupont-Aignan par la main en disant « Mais venez donc, la démocratie
!» Ça provoquerait des choses assez insensées, on imagine. Mardi, Olivier, le MEDEF va débuter ses auditions des principaux candidats. Tous les candidats, apparemment, y compris Marine Le Pen.
Y compris Marine Le Pen, ça c'est une grande première. C'est jamais le patronat n'a reçu Marine Le Pen.
Mardi également, meeting de François Fillon à Courbevoie, déplacement de Benoît Hamon à Bruxelles. Mercredi, les candidats auditionnés, cette fois devant l'AMF, les maires de France. Et puis Marine Le Pen, elle sera au Tchad, elle va rendre visite aux soldats de l'opération Barkhane. Jeudi, on sera le 23.
Maire de France, dont le président est François Baroin.
François Baroin, exactement. Jeudi, François Fillon sera invité de l'émission politique de France 2 et il y aura un meeting d'Emmanuel Macron à Dijon.
Il va retrouver sa copine Charline Van Hanecker.
Vendredi, meeting de François Fillon à Biarritz. Samedi, Emmanuel Macron s'envolera pour 2 jours à La Réunion. Et puis alors, il y aura un anniversaire historique samedi. Je ne sais pas si les candidats vont s'en emparer ou pas. Les 60 ans de l'Union européenne.
Oui, 60 ans du traité de Rome. Vous voyez, le cheminement, on en est loin de cet espoir qui a été créé à l'époque. Aujourd'hui, l'Europe est vilipendée de toutes parts, injustement sur bien des points d'ailleurs. Espérons que la présidentielle française permettra, peut-être avec les Allemands et avec d'autres pays, une relance de ce projet qui est un beau projet, mais qui effectivement a sombré dans la technocratie, la bureaucratie, et qui finalement éloigne les citoyens de l'Europe.
Dimanche, on termine, Olivier. L'invité du grand jury, ce sera François Baroin.
Oui. Qui sera donc dégagé des obligations militaires par rapport à l'Association des maires de France pour parler, comme il en aura envie, de François Fillon.
Merci, c'est la fin de ce MacPol. Dans un instant, les infos de 19h. Juste après, dans les dessous de l'écran, on va vous parler d'une émission absolument formidable. Il y est question de politique, mais alors de façon très rafraîchissante. Ça s'appelle Candidats au tableau. Les principaux candidats à la présidentielle seront dans des classes, face à des enfants. Les deux journalistes Mélissa Theriot et Caroline Delage, à l'origine du projet, seront nos invités. Et puis on va revenir sur ce qui s'est passé lundi soir sur France 2. Deux humoristes, Mathieu Madénian, Thomas VDB, ont été déprogrammés au dernier moment à la demande de Delphine Ernotte. S'agit-il d'une censure politique ? On va vous dire ce qu'on sait. A tout de suite.
RTL dimanche soir.
Le MacPol.